If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ah, ah oui, c'est doux. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui.
C'est un couple. Nous sommes en pleine période d'accouplement.
Ah oui, c'est cocasse.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes où on parle de sexualité, de santé et de société. Dans cet épisode, on va évoquer la levrette, non pas la femelle du lévrier, mais la position sexuelle où un partenaire est derrière l'autre en appui sur ses mains ou ses avant-bras. De tous les mammifères de la planète, exception faite de quelques espèces comme le bonobo ou le dauphin, l'homme est le seul à avoir des relations sexuelles côté pile. Il pratique donc le sexe par devant, mais aussi par derrière, comme les félins et les rongeurs. S'intéresser à la levrette, c'est aussi s'intéresser à un tabou religieux, frappé d'interdits moraux et même médicaux. Et si aujourd'hui la levrette est l'une des positions préférées des Français, elle est encore aujourd'hui, parfois, considérée comme une posture impudique, honteuse. Mais pourquoi donc ? Retour sur l'histoire de l'humanité et de la sexualité avec Didier Dylaine, journaliste belge, auteur de nombreux ouvrages, dont « La fabuleuse histoire de la levrette » aux éditions La Musardine. Didier Dylaine, bonjour. La levrette est documentée par des dessins, des gravures depuis des millénaires. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Cependant, dans l'Antiquité grecque, la levrette semble pratiquée et même appréciée.
Chez les Grecs, ça c'est clair, ils semblaient beaucoup l'apprécier parce qu'on la retrouve partout, on la retrouve dans la littérature, on la retrouve sur certains vases qui servaient aux banquets, donc à des libations durant des fêtes très arrosées. Donc il y a des dessins érotiques et c'est une des positions qui revient le plus souvent. On la retrouve bien évidemment aussi chez les Romains avec la sodomie. La même chose chez les Romains, il n'y a pas d'opprobre particulière qui semble attachée à la levrette, donc on peut considérer, j'ai pas trouvé d'éléments qui montrent qu'elle était interdite ou qu'elle était mal jugée, alors qu'il y a d'autres pratiques sexuelles qui pouvaient être mal jugées chez les Romains, comme la fellation passive par exemple. Et donc voilà, c'était une position qui semblait appréciée, les prostituées, dans leur publicité graffiti à Pompéi, par exemple, en faisaient la réclame, donc c'était quelque chose qui était assez courant. Ouais.
Mais à partir du Moyen-Âge occidental chrétien, la levrette est condamnée.
À partir du Moyen-Âge, même déjà un tout petit peu avant, on sent qu'il y a un retour de manivelle sur la sodomie, sur certaines pratiques sexuelles, c'est avec les premiers auteurs chrétiens, mais c'est clair que c'est surtout au Moyen-Âge et avec l'émergence des manuels de confession, donc des pénitentiels principalement, que toute la sphère sexuelle va être mise sous le boisseau par l'Église, et notamment la levrette qui, curieusement, devient une position au mieux accusée d'être contre nature, au pire d'être diabolique, de provoquer toutes sortes de catastrophes ou de malformations, ça c'est les médecins qui en parlent. Et ce qu'on lui reproche aussi, c'est de ne pas favoriser la conception, et ça c'est très grave à l'époque aussi, puisque un mariage chrétien, ce doit être un mariage fécond, et si on adopte une position qui n'est pas féconde, eh bien évidemment on contrevient aux ordres et on contrevient à l'esprit du mariage chrétien qui est de faire des enfants. On l'a aussi accusé de donner trop de plaisir, et donc ça c'était pas bien, c'était même fortement mal vu, parce qu'il fallait du plaisir juste assez pour procréer, encore une fois, et pas rechercher ce plaisir pour le plaisir. Donc c'est toute une série d'interdits qui tournaient autour de la levrette, et les gens, enfin les chrétiens, les ouailles qui s'y livraient, eh bien, étaient passibles de pénitence. Hein. À l'époque, on faisait des jeûnes au pain sec et à l'eau, qui pouvaient, dans le meilleur des cas, durer une dizaine de jours, mais aller jusque 25 ans pour certains confesseurs.
En 2022, la levrette est parfois encore considérée comme impudique. Certains aussi affirment que la levrette est une position sexuelle dangereuse. Qu'en est-il ?
Il y a une dangerosité qui est toute relative malgré tout, puisque une étude brésilienne qui a été faite sur une série de cas de fracture du pénis traité aux urgences, il y a 42 cas, donc c'est pas une énorme étude, mais enfin, et les médecins leur ont posé la question, mais quelle position avez-vous adoptée avant que votre pénis connaisse cette fracture? En fait, c'est pas une vraie fracture, hein. C'est une rupture de certains tissus du corps caverneux. La levrette intervient dans, je crois, 27% des cas, mais ce n'est pas la position la plus dangereuse, c'est l'andromaque qui est la plus dangereuse, c'est la dame qui chevauche le monsieur à ce moment-là. Et donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment attirer l'attention, en tout cas dire, ouh là là, attention, surtout ne pas pratiquer la levrette, parce qu'on pourrait avoir une fracture du pénis, ça, les risques sont quand même très faibles.
On avait parlé il y a quelques semaines avec Emmanuel Bertolo, cardiologue, des bienfaits des relations amoureuses et sexuelles sur le cœur. La levrette, elle peut être bonne pour le dos.
C'est une étude très intéressante qui a été menée par des chercheurs canadiens qui ont voulu savoir quelles étaient les positions les plus compatibles avec les lombalgies. Il y avait différentes formes de levrette, différentes formes de missionnaire, différentes formes de cuillère, donc c'est quand les partenaires sont dos à dos mais sur le même plan, donc il n'y en a pas un qui est entre guillemets au-dessus de l'autre. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, puisqu'il y avait plusieurs positions, je ne vais pas toutes vous les citer, mais disons que si on est un lombalgique mâle intolérant à la flexion, ben, il vaut mieux demander à sa partenaire ou son partenaire d'adopter une levrette à quatre pattes, donc les mains en appui, et délaisser les petites cuillères, donc ça c'est pas très bon, le mouvement n'est pas très bon. Et si on est une femme intolérante à la flexion, eh bien on peut opter aussi pour la levrette avec les coudes par terre ou les petites cuillères par contre, là on peut.
D'après plusieurs sondages français, mais aussi étrangers, la levrette est l'une des positions plébiscitées par les pratiquants. Est-ce une libération de la parole ou des pratiques ?
C'est la question que se posent les sociologues et les sondeurs souvent. C'est est-ce que ça correspond à une expérience réelle ? Donc, quand les gens disent « on pratique plus souvent la levrette » ou « c'est une de nos positions préférées », ça correspond à la réalité de ce qu'ils vivent, c'est vrai. Ou est-ce que effectivement, parce que cette position devient quand même plus socialement plus acceptée et acceptable, on en parle plus, parce que ça n'est plus un tabou.
Est-ce que la levrette est politique ?
Mais écoutez, il y a au moins deux enquêtes qui montrent que, en résumé, plus on est diplômé, plus la pratique de la levrette augmente. C'est apparemment particulièrement vrai chez les millennials, hein, donc la génération Y, donc ceux qui sont nés au début des années 80, fin des années 90. Et le coup de rein postérieur donc séduit 73% des jeunes en cours d'études, 85% chez les CSP-, et 91% chez les CSP+. Il y a une autre étude IFOP qui montre que c'est plutôt l'inverse pour la sodomie. C'est ça qui est curieux, par contre, en tout cas pour les femmes. Les femmes qui ont obtenu leur bac ou qui possèdent un diplôme de premier cycle sont plus nombreuses à avoir déjà tâté de la sodomie que les femmes qui ont suivi un cursus de deuxième ou troisième cycle universitaire. Les femmes des communes rurales pratiquent plus la sodomie que celles de Paris. On ne sait pas très bien pourquoi non plus, mais c'est 57% à la campagne pour seulement, entre guillemets, 47% dans la capitale.
Merci à Didier Dylan pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité, Santé et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous ferez ainsi grandir la communauté. Pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. À très vite.